François Bousquet, y a-t-il une théologie française?
Si on pouvait, une bonne fois, avec des gens évidemment de bonne volonté, c'est-à-dire qui n'aient pas mal au foie ou de l'acidité dans l'estomac ou de ressentiment dans la tête ou je ne sais quelle antenne un peu tordue, si on pouvait, une bonne fois, laisser tomber les préjugés, les lieux communs. En particulier, j'ai retrouvé, alors, en présentant les grandes figures du XXe siècle, les Chenus, Congard, de Lubac, Daniel Loup, Bouillet, etc., et puis ceux qui sont vivants aujourd'hui encore, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme mère de famille dans leur démarche théologique. Et c'est dans un texte qui date de 1937, très beau, du Père Chenu, qui s'appelle « Une école de théologie, le seul choix », qui est un texte programmatique, à la fois un bilan et un programme. Ça avait été mis aussitôt à l'index en 1942, parce que c'était pas recevable dans le contexte. Mais alors après, les années 58, quand on lui a rendu la liberté de parole, d'expression, et qu'on a reconnu la valeur savoureuse de ses écrits, il a une manière de présenter la foi, la théologie, la réflexion chrétienne. Quand on a eu remis en valeur ce texte, et quand on le relit aujourd'hui, on voit son étonnante actualité. Ça renverse des préjugés sur la théologie française. Les Français sont gentils, mais enfin, tout ça, ça donne de l'humanisme. Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de... Erreur. Première des choses, la question de Dieu est insistante. J'ai retrouvé là des dizaines et des dizaines de livres. Dieu. Donc la question de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société française où Dieu n'est plus une évidence sociale. Contrairement à d'autres pays en Europe qui nourrissent encore une illusion de chrétienté. Mais comme ça leur arrive très vite maintenant, je serai très content quand ils pourront enfin nous lire et bénéficier de nos travaux. Parce que ça va leur arriver très vite. Mais la question de Dieu. Après, quand on regarde le texte de Chenu, première des choses, primauté du révélé. Attention, primauté du révélé, c'est pas « boum, ce qu'il faut croire vous tombe sur la tête comme ça ». C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire primauté à l'évangile et à la parole de Dieu. Autrement dit, quelles que soient les formulations théologiques, officielles ou privées ou dans un cadre universitaire, enfin, quel que soit leur statut, rien ne remplace l'écoute obéissante, l'obéissance de la foi, l'écoute de la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre les théologiens pour la parole de Dieu. Ça, c'est leur péché originel. Je vais vous expliquer mieux que la parole de Dieu ce que vous avez à croire. Puis ça va être plus cohérent. Oui, mais malheureusement, cette cohérence, elle laisse tomber des choses qui sont dans la parole de Dieu et qui répondent à notre humanité réelle. Oui, mais vous prolongez, ça c'était 37 aujourd'hui. Eh bien, j'ai bien l'honneur de dire que la source prochaine de révélation, ça n'est pas le catéchisme de l'Église catholique. C'est l'Écriture, enfin plus large que ça, la parole de Dieu consignée dans l'Écriture, célébrée dans la liturgie et mise en pratique par les gens. Parole de Dieu. Alors, bon, il y a beaucoup à dire, à faire. Après, autre trait du portrait de famille, là, de l'air de famille, le rapport entre la foi et l'histoire, avec pour moi deux choses très importantes. Premièrement, l'herméneutique. L'herméneutique que les Français ont eu le courage et l'honneur de travailler et, j'allais dire, d'apprivoiser à usage de la théologie. L'herméneutique, contrairement à ce qui se répète encore, mais avec une sottise incroyable, c'est le respect, c'est la fidélité. C'est lire les textes comme ils ont été écrits, selon le même esprit, dans leur rapport à leur contexte historique. C'est même dans le texte de la Commission biblique pontificale sur les lectures de l'Écriture, toutes sont avalisées, sauf une, la lecture fondamentaliste. Précisément parce que ces lectures fondamentalistes font abstraction de l'histoire. Alors après on dit « oui, mais c'est le relatif ». Pas du tout, pas du tout. Précisément, l'herméneutique, c'est pas le libre examen et n'importe quoi. On a derrière nous 100 ans de science du texte. Donc ceux qui disent du mal de l'herméneutique telle qu'elle est pratiquée par des théologiens responsables et qui ont une haute conscience de leur responsabilité par rapport à la confession de foi, qu'ils arrêtent d'être ignorantins et qu'ils rattrapent d'abord 100 ans de science du texte. La deuxième chose, c'est dans le geste théologique, rapport entre la foi et l'histoire. Chenu parlait de l'incarnation, respect du principe d'incarnation. Si vous voulez avoir une théologie qui cherche à savoir l'idée de Dieu sur les choses, ne vous mettez pas au balcon dans les nuages, surplombant l'histoire et la vie des gens. D'abord, même Dieu lui-même vient partager. Pour nous partager sa vie, il commence par venir partager la nôtre. L'imaginez pas au balcon, sur son nuage, en train de juger, en juge d'application des peines. Mais c'est pas ça. C'est, si vous voulez, le point de vue absolu sur les choses, et non pas relativiste. Regardez pas ça comme ça, de là-haut, en surplombant, comme théologien. Regardez-le avec les yeux du crucifié. Là, avec les yeux du crucifié. Là, vous aurez le point de vue de l'absolu. Là, vous aurez le point de vue de Dieu. Là, vous aurez la vraie garantie contre tout relativisme. Vous voyez, ce point sur foi est histoire. L'herméneutique et le regard non surplombant sur les choses, mais pourtant absolu, parce que avec les yeux du crucifié, ça pour moi c'est très très important. Alors il y a encore un trait de famille dans la théologie française, c'est l'attention à la culture, une particulière attention à la culture. Évidemment, dans notre fierté un peu française, on a pensé qu'on était les meilleurs et les seuls, c'est pas vrai. Tout le monde, enfin presque tout le monde, les bons théologiens des différentes cultures, non seulement européennes, mais surtout les théologiens du tiers-monde, avec leurs soucis d'inculturation de la foi, tout le monde fait ça maintenant. Mais ça veut dire quand même ici quelque chose d'important. Ça veut dire... Le rapport à la culture fait partie de l'acte théologique. Parce que c'est dans ce dialogue avec la culture que les choses se passent. J'ai essayé de porter cette bonne parole à Varsovie, je me souviens, il y a quelques années. J'ai été accueilli par un grand silence frisé. Mais c'est les étudiants. Il y avait les étudiants laïcs en théologie. Un certain nombre étaient de futurs journalistes, éditeurs, etc. Au quart de tour, ils ont compris de quoi il s'agissait. Les collègues étaient plus réticents. Ils étaient en fait aussi dans une situation un peu tendue. Bon, voilà. Dernière chose que je voudrais dire, l'importance de la philosophie. Dans la traversée du XXe siècle par les théologiens, il ne faudrait jamais oublier, au début Blondel, très important, et dans la deuxième moitié Ricoeur, plus Lévinas, plus quelques autres. Des gens comme Bouillard, par exemple, étaient amis d'Éric Weil, etc. Il y a une attention à la rationalité philosophique tout à fait importante et qui est maintenue dans une altérité maintenue. Il y a une manière de faire la dogmatique qui respecte des cohérences profondes et qui respecte un questionnement qui est celui de la philosophie. Moi, je prends souvent l'image de la vision binoculaire. C'est-à-dire, vous fermez un œil, vous voyez tout. C'est la théologie. Il n'y a rien qui doit être hors de son champ. Vous ouvrez l'autre œil, c'est la philosophie. Elle voit tout, y compris la question de Dieu, la question de la religion. Mais il faut les deux pour avoir le relief. C'est-à-dire l'important, c'est la différence chrétienne. C'est la même chose, mais on a deux yeux. Et il faut se servir de ces deux yeux, et pour voir le relief, et aussi pour apprécier les distances, les rapports, les écarts. Alors ça, c'est un ensemble de traits de la théologie française. Alors, j'allais dire, ce que nos étudiants qui viennent de l'étranger apprennent, alors ça, c'était le cardinal Glemp, un jour. On était un groupe de profs. Et il nous confiait des étudiants polonais. Et il nous a dit, écoutez, je les mets ici, vous allez leur apprendre la liberté. On l'a regardé avec des grands yeux. Oui, oui, la liberté. Nous, on l'a retrouvé, mais on ne sait pas bien faire avec. C'était étonnant, hein. Et j'ai réfléchi à ça beaucoup après. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce vieux cardinal-là? Et pourquoi il nous met là? Il nous assigne cette tâche d'une manière très forte. C'est la liberté que cela donne de croire. Et la liberté intelligente que cela donne de réfléchir le croire en théologie. Mais du coup, il y a un point très important et sur lequel moi je souffre énormément dans le contexte actuel. Je n'arrive pas à faire comprendre, mais probablement les oreilles sont un peu bouchées, et puis les oreilles, vous savez, ça communique avec le cœur, c'est pareil. Je n'arrive pas à faire comprendre que la foi en la révélation est la prise au sérieux de la question que Dieu pose. C'est-à-dire, qui dis-tu que je suis ? Contre toute idolâtrie et contre toute illusion. Et où est ton frère ? Contre toute injustice et contre toute violence. Et je n'arrive pas à faire comprendre que la révélation est dans la différence que met l'Esprit Saint. Et non pas comme si la révélation était un ensemble de réponses déjà formatées et toutes faites. Je vois se constituer maintenant, dans le paysage théologique, une espèce de scolastique de Vatican II. Alors voilà, ah, c'est Vatican II. Mais c'est tel qu'on doit l'interpréter. Et surtout, c'est que des réponses, c'est pas des questions. Ça va pas. Ça fait fonctionner la vie chrétienne comme au sens technique qu'on appelle les religions traditionnelles. Les religions traditionnelles, c'est les réponses avant que vous soyez posé les questions. On fait venir l'ancien et il raconte les mythes pour savoir avec qui il ne faut pas se marier, pourquoi tel endroit s'appelle comme ça. Bref, le vieux, il apprend aux jeunes la vie et les repères et ils sont tout faits, ils sont hérités de la coutume. C'est la religion traditionnelle. Alors le malheur, c'est qu'on a aujourd'hui des gens qui veulent continuer à faire fonctionner le christianisme comme une religion traditionnelle, c'est-à-dire les réponses avant les questions des gens, et ils n'arrivent pas à voir que le christianisme lui-même est une religion émergente et que l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, c'est que Dieu nous interroge et nous répond, et nous lui répondons et nous interroge, etc., et ainsi de suite. Le pouvoir et le savoir se constituent en Occident sur la parole échangée. Donc ça, vraiment, c'est un combat que je compte mener, faire comprendre que nous avons toutes les ressources dans la foi chrétienne pour que notre théologie, et donc l'explicitation de la foi, s'insère dans une culture du débat qui est absolument essentielle pour être crédible aujourd'hui.